pour investir, le coffre-fort.
Le crowdfunding, vous vous souvenez, hein, il y a encore 2-3 ans, on en parlait matin, midi et soir. Bon, on n'en parle plus trop en ce moment. C'est devenu quelque chose de pointu, mais quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, quelque chose sur lequel il faut être sélectif. Et sur lequel il y a des nouvelles dynamiques qui se dégagent. Alors, bien entendu, nos amis de Carré Partners sont là. Wendy Souvanara.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et bonjour
Alexandre
Antoine. Ring,
bonjour. Très content de vous avoir là. Alors, j'ai titré ça « Crowdfunding, est-on dans une sorte de grande panne ?» On va peut-être commencer par un cas emblématique qui s'appelle « October ». Et qui est un petit peu symptomatique de tout ce qui est en train de se passer du côté du crowdfunding à ce moment. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé sur October?
Ouais, avec plaisir. Alors October, on s'en rappelle, hein, c'est le dernier gros acteur européen du crowdlending. Donc tout le monde connaît son nom. Malheureusement, c'est la fin. Ça vient d'être racheté. Hein, ça fait suite à WeSeed, hein, il y a quelques mois, qui annonçait aussi un redressement judiciaire. Ouais. Bon, pour se remettre un petit peu dans le contexte, hein, October, c'était 1,2 milliard de collectés sur plus de 10 ans à travers l'Europe, hein, qui est du prêt finalement au TP. PME, c'est 44 000 investisseurs.
Ouais, c'était le Lendix d'Olivier,
oui,
d'Olivier Gouin au départ.
Absolument,
voilà,
exactement, tout à fait, ouais, je vais te le rappeler. Et donc finalement, la mort d'October, ça nous dit beaucoup du crowdfunding de manière générale et ça vient directement se rattacher au dernier baromètre qu'on avait eu finalement de Mazars France FinTech 2025 qui nous disait que malheureusement, le millésime 2025 était assez catastrophique. Alors, crowdlending, on peut se parler un peu plus largement du crowdfunding immobilier même d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Et là, on voit que les résultats, j'ai pas d'autres mots, sont assez catastrophiques. Alors déjà, on a un crowdfunding qui dévisse complètement en 3 ans de près de 50%. On passe de 1600 à 845 millions de collectes sur l'année passée. Mais surtout, on se parle de 2/3 des portefeuilles qui sont en difficulté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en difficulté? Soit ils sont en retard, soit ils sont sous procédure collective. On va le dire dans des mots très simples, les promesses qui avaient été faites aux particuliers d'un rendement quasiment garanti, puisqu'on était sur des prêts, ne sont absolument pas tenues. Et aujourd'hui, on est confronté à la réalité, finalement.
Bon, Alexandre, au-delà d'October, quel est le tour d'horizon de ce qui se passe du côté du crowdfunding? Est-ce qu'on n'est pas finalement dans la queue de typhon de tout un truc dont on a parlé depuis des semaines, qui s'appelle le crédit privé? Alors, aux États-Unis, bien sûr, mais toute une sorte de méfiance structurelle qui est en train de s'organiser autour de segments de marché qui se ressemblent un petit peu et qui semblent désintéresser les investisseurs maintenant.
Alors, il y a, entre autres, effectivement, la dette privée, le crédit privé, c'est un segment qui a été présenté, ou qu'en tout cas que le particulier a compris comme étant quasiment garanti. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit, vous allez avoir un taux qui est un coupon qui arrive tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Et donc, ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de fluctuation, qu'il n'y a pas d'aléa. Et ça a été exactement le cas sur le crowdfunding immobilier. C'était particulièrement emblématique, parce que je m'en souviens à l'époque, c'était présenté comme avec un taux de défaut zéro. Ouais. Ce qui a été vrai jusqu'à ce que le marché immobilier explose avec la remontée des taux, hausse des matières premières, l'allongement des délais de vente, ont fait éclater ce marché qui reposait sur des promoteurs qui utilisaient le crowdfunding immo pour financer les fonds propres en complément de la dette bancaire. Alors les banquiers, ils se sont remboursés. Évidemment, ce qui est passé à la casse, c'est les fonds propres. Et les fonds propres, en fait, étaient apportés par des prêteurs particuliers qui jouaient ce rôle de financeur en fonds propres, mais pensant qu'ils avaient finalement ce rendement garanti. Et ça, c'est pareil sur le sujet de la dette privée. On a présenté des portefeuilles très diversifiés, donc avec un risque qui était étalé. Mais à un moment, quand l'intégralité de l'économie souffre, quand tous les taux remontent, vous avez à la fois une contraction de l'écart entre un taux sans risque et ce taux qui en réalité est avec risque, même s'il avait été mal compris.
Oui, bien sûr.
Et puis, des casses, des entreprises, les fameux sous-jacents qui tombent. Ça a été le cas. Ça rappelle la crise des subprimes, évidemment. C'est le même cas d'usage. Voilà. Et après, si on prend le crowdfunding, de manière plus générale, il y a cette crise globale sur l'investissement dans les TPE PME qui ont du mal à résister dans un marché qui est en train, dans l'investissement, de partir vers les plus gros. L'essentiel de la valeur et des volumes d'investissement est en train d'être capté par une poignée d'acteurs.
Ouais, et quand on veut investir dans l'économie réelle comme ça, Est-ce qu'il y a des alternatives à l'heure actuelle, peut-être des choses un petit peu plus sécurisées, un petit peu moins risquées, un petit peu plus encadrées? Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais à Euronext, ils faisaient tout un grand cas aussi de tout ce qui est pré-introduction en bourse.
Absolument.
Et là-dessus, il y a du business, il y a des investisseurs qui sont intéressés.
Ouais, vous faites bien de le dire, parce qu'effectivement, si je reviens deux minutes sur effectivement capital risque, capital innovation, justement, vous avez cité Euronext. Bon, voilà, les IPO sont complètement en berne, parce que effectivement, on est sur deux boîtes qui n'ont pas du tout délivré. Maintenant, la valeur se concentre avant l'introduction en bourse. Alors, on se rappelle les chiffres, Google, Facebook, ils étaient restés privés en moyenne 5-6 ans. Aujourd'hui, les grands noms qu'on entend régulièrement, maintenant SpaceX, Anthropic, OpenAI, qui vont s'introduire bientôt, on se parle de plutôt 10-15 ans. Donc la captation de valeur, elle est dans ce 18-24 mois avant l'introduction en bourse, où on peut aller chercher des rendements mesurés et aller, on va dire, dérisquer au maximum, puisque ce sont des boîtes qui ont déjà les fondamentaux solides. Maintenant, attention, et j'insiste vraiment, on n'investit pas, c'est un marché qui est complexe, le late stage, comme on l'appelle, le pré-IPO. Oui. Et donc c'est important de rappeler à nos investisseurs, moi je le dis quotidiennement, quand vous investissez, quel que soit le véhicule, le club ou la maison, posez des questions. La règle numéro un, c'est de s'intéresser à la rigueur institutionnelle, avant de s'intéresser uniquement au prix, qui est en général le réflexe des particuliers. Quelle est la rigueur institutionnelle derrière? Quelle est la chaîne de détention juridique? Y a-t-il des audits qui sont réalisés en Europe, mais également aux États-Unis si vous investissez dans une cible américaine? Ensuite, allez regarder évidemment le ratio acheteur-vendeur. OpenAI, un acheteur, 5 vendeurs. Vous comprenez qu'on se pose des questions sur la valeur.
C'est totalement.
C'est évident. Ouais. Anthropic, l'inverse, c'est une pénurie. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un équilibre de marché où on va avoir le bon prix, la bonne valorisation et aller capter cette valeur encore une fois. Et évidemment, on ne cessera jamais de le rappeler, la diversification. Même quand on investit dans le late stage, on se pose la question de diversifier sur plusieurs licornes pour aller encore une fois toujours se dérisquer et aller répartir son portefeuille quand bien même on est sur des actifs qui aujourd'hui délivrent historiquement beaucoup de valeur.
Ouais, diversifier, puis aussi décrypter et vraiment... aussi bien du côté de la technique financière que du business model, mettre les mains dans le cambouis et pas avoir peur d'être proche de son objet.
Je dirais, il faut se rappeler, c'est les fondamentaux de l'investissement, il faut y revenir. Il ne faut pas investir juste dans le nom, parce que effectivement tout le monde s'excite, on le voit chez Carré en pré-IPO sur Anthropic. Le problème, c'est qu'Anthropic, c'est passé quand même en 14 mois de 60 milliards de valo à plus de... Là, ça se revend sur les marchés aujourd'hui à entre 1000 et 1200 milliards. Alors que l'introduction en bourse, on se parle de 900 milliards, que la valorisation du dernier tour institutionnel en février était à 380 milliards. Donc vous comprenez qu'en fait... cette espèce de FOMO des investisseurs peut créer un effet de bulle. Là, on peut s'en parler.
Et là, on
se retrouve à acheter trop cher. Et acheter trop cher, ça veut dire potentiellement, perdre sur la sortie. Ce ratio, si à l'entrée il est déséquilibré, à la sortie, il risque de l'être, mais dans le sens inverse.
Ouais, c'est ça, exactement. Écoutez, merci d'avoir fait le point là-dessus. C'était vraiment très intéressant. C'est vrai qu'il y a énormément d'actu, notamment du côté des États-Unis. Mais voilà, déjà le crowdfunding, et puis ensuite. Regardez le marché des prêts IPO, Carré Partners, Alexandre Leng et Wendy Souvanarat. Merci d'avoir été avec nous.